Les podcasts du Collège de France, littérature.
Je parlerai cette semaine du bonheur d'être ici dans la perspective de la musique et de la musique dans la perspective du chant des oiseaux. Je parle assez souvent de l'existence de tant de reverdis dans la poésie occidentale. Et je note l'existence dans beaucoup de Reverdi comme point culminant le chant des oiseaux. Par exemple, dans Summer is coming in, un poème ou une chanson anglaise du XIIe siècle, probablement. Summer is coming in est centré sur le chant du coucou. Il me semble que j'en ai parlé il y a quelques années ici, et je sais que je l'ai fait entendre au cours de ma lecture de poème l'autre samedi. Summer is coming in, qui est une sorte de reverdi malgré Summer. À cette époque-là, on était un peu vague sur le printemps et l'été, fondé sur le chant du coucou. Au début du roman de la rose, Lee Wazell, ou dans la traduction de Chaucer, The Breeders, arrive au moment le plus touchant pour moi de la Reverdy qui est créée au début. Dans les contes de Canterbury, les premiers vers qui sont, encore une fois, une Reverdy, c'est le retour du printemps, etc., les premiers vers s'électrisent, pour ainsi dire, au vers « and small fowls marken melodie » et que petits oiseaux modulent mélodie. Il me semble que très souvent, le poète s'enflamme d'une autre façon, plus profondément, quand, après avoir décrit le ciel, le soleil, les arbres, les fleurs, etc., il parle du chant des oiseaux. Et il s'agit évidemment de l'attrait d'un commencement ou d'un recommencement, le printemps qui revient et qui nous parle à chaque fois de la possibilité d'un vrai renouveau. Et il est évident que le bonheur d'être ici renaît avec le printemps. Mais pourquoi sentir l'importance particulière des chants d'oiseaux? Peut-être parce que les chants d'oiseaux sont une musique du réel. Ce n'est pas notre musique que nous ajoutons au réel, c'est une musique qui est indépendamment de nous et une musique qui participe du réel. Un peu, et c'est curieux parce que j'en ai parlé la semaine dernière dans un autre contexte, je ne m'appelle plus lequel, c'est sans importance, c'est un peu comme les nymphes, les satyres, les sylvains, etc., que nous avons inventés comme des êtres apparentés à l'humain, qui ressemblent aux hommes et aux femmes, mais qui habitent profondément les arbres, les ruisseaux, les forêts, les montagnes, qui les habitent réellement. Autrement dit, nous ressentons avec les chants d'oiseaux, le bonheur d'écouter la musique de l'ici. Puis, le chant des oiseaux ne signifie pas, peut-être que le chant du mâle a un sens pour la femelle ou pour les autres mâles lorsqu'il délimite son territoire, mais le chant des oiseaux ne signifie pas comme un poème signifie. Et à l'écouter, nous sommes en deçà des idées, des pensées. Nous sommes, en quelque sorte. Et tout en n'étant pas humain, le chant des oiseaux ressemble à notre chant. C'est le son non humain, sans doute le plus proche de nos sons. Et nous ne sommes pas exclus. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que le chant des oiseaux est au cœur de la Reverdy. Le poète réagit au moment où il s'enthousiasme du commencement, du possible, du bonheur de l'ici qui renaît, d'un chant, d'une musique, d'une harmonie même, quand il y a plusieurs oiseaux qui chantent ensemble, qui lui rappelle son propre art, mais qui, contrairement à la poésie, peut exister uniquement dans le monde des sons. Vous savez que de temps en temps, un poète arrive qui se plaint du fait que les mots ont des significations. Beaucoup de poètes, peut-être même tout poète, au fond, aimerait faire des sons, aimerait faire une forme sonore, sans être obligé constamment de penser à la signification des mots, parce que les mots ont inévitablement un sens. Il y a eu même des poètes qui ont écrit, comme vous le savez, des poèmes qui n'ont pas de sens, où on est censé écouter uniquement les sons. Malheureusement, en poésie, la signification que l'histoire et que notre mémoire donne au sens permet au poème d'être beaucoup plus qu'une série de sons et permet aussi au poète de se rendre compte qu'au fond, il n'a rien à envier aux musiciens. Mais ça, c'est une question qui m'a effleuré, mais que je ne veux pas poursuivre. Mais à la question « Pourquoi le chant des oiseaux nous est-il important ?», il convient d'ajouter une deuxième. Pourquoi les musiciens s'intéressent-ils tellement à ces chants ? Là, évidemment, je suis obligé de deviner, n'étant pas musicien. Le chant des oiseaux fascine les poètes. Les oiseaux sont en quelque sorte des poètes qui n'ont pas nos problèmes. Et j'imagine qu'ils fascinent les musiciens parce que la musique, en tant que mathématique, rapport, architecture, en deçà de toute signification, suggère quelque chose ou nous met en relation avec quelque chose qui serait la structure du tout, d'où la musique des sphères. Alors que le chant des oiseaux, une musique déjà de l'ici, encourage une autre sorte de musique qui cherche, révèle et forme des émotions, une musique impure. J'en ai parlé d'ailleurs l'année dernière, lorsque j'ai contrasté l'art de la fugue de Bach, qui représente plus ou moins la première idée de la poésie que je viens d'évoquer, et Spemen aleum de Thalys, qui représente très évidemment la deuxième. Et le chant des oiseaux ressemble à la voix humaine, et précisément le chant de l'ici, et qui attire donc un musicien qui veut lui aussi chanter l'ici. Il est vrai que la musique est l'art le moins réel. La littérature parle des gens, de la politique, de l'histoire, de tout, et souvent de n'importe quoi. La peinture fait voir, la danse entraîne le corps, on entre dans l'architecture, mais le musicien peut vouloir que la musique aussi touche à toutes les dimensions de notre expérience. D'où la présence des chants d'oiseaux un peu partout, quand on y pense, dans la musique. Du chant des oiseaux de Jeannequin au catalogue d'oiseaux de Messiaen. A-t-on remarqué aussi à quel point les chants d'oiseaux reviennent dans la symphonie pastorale de Beethoven et la structure. Tout le monde sait que la caille, le rossignol et le coucou sont en quelque sorte présents à la fin du deuxième mouvement. Il y a des commentateurs qui supposent qu'il s'agit là d'une sorte de plaisanterie de la part de Beethoven, le grand musicien qui à un moment joue avec l'idée que, bon, avec certains instruments et certaines notes, on peut faire coucou, etc. Ou est-ce au contraire le moment où Beethoven rend clair le fait qu'il utilise le chant des oiseaux pour composer. Quand on écoute bien cette fin du deuxième mouvement, on entend les trois phrases coopérer parfaitement, comme ce n'est pas le cas dans la nature, coopérer parfaitement afin de former une phrase musicale complexe et elle-même parfaite. Mais il faut remarquer aussi dans cette symphonie que si le deuxième mouvement va vers des chants d'oiseaux, se culmine dans des chants d'oiseaux, le premier mouvement le fait aussi, dans le sens qu'il termine par des phrases qui ressemblent à des chants d'oiseaux. Et souvent, un thème qui évoque le chant des oiseaux est répété, comme les oiseaux se répètent, se combine avec un autre thème dans une sorte de dialogue d'oiseaux, cela partout dans la symphonie, et est joué sur un instrument à vent, où on entend précisément le souffle. Il est vrai que Beethoven dit qu'il représente les émotions humaines dans cette symphonie et qu'il ne décrit absolument pas musicalement des paysages. Mais la frontière entre sa musique et les sons de la nature est poreuse. C'est comme si, à n'importe quel moment, on écoutait à la fois la musique et la nature. Le bonheur d'être ici dans une œuvre s'ouvrant au bonheur d'être ici dans le réel. Mais on peut imaginer des rapports entre musique et chant d'oiseaux plus complexes, dès qu'intervient la poésie, dès qu'intervient un texte, tout simplement. Et le premier exemple dont je parlerai est simple et beau. C'est Purcell, « My beloved spake »,« Mon bien-aimé a parlé », qu'il a écrit vers 1680, et où il choisit comme texte un passage du deuxième chapitre du Cantique des Cantiques, ce poème d'amour hébreu dont j'ai déjà parlé, puisque la bien-aimée noire mais belle est probablement évoquée par la maîtresse dans les sonnets de Shakespeare, où Shakespeare, écrivant en anglais, peut répéter le mot « dark ». Bien sûr, on ne dirait pas une dame noire. En français, il faudrait dire une dame brune. Mais en anglais, la jeune femme du Cantique des Cantiques est « dark », et la maîtresse de celui qui parle dans les sonnets l'est aussi. C'est un poème d'amour. Le passage que Purcell choisit pour sa musique, il ne choisit évidemment que quelques versets, est une reverdie. Et le texte de Purcell est très peu modifié par rapport à la traduction anglaise de 1611. Vous l'avez sur la photocopie. « My beloved spake and said unto me, rise, rise, my love, my fair one, and come away. For lo, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear upon the earth, and the time of the singing of birds is come. Mon bien-aimé a parlé et m'a dit, levez-vous, levez-vous, ma bien-aimée, ma belle, et venez, car voyez, l'hiver est passé, les pluies ont cessé, les fleurs paraissent sur la terre, et le temps du chant des oiseaux est venu. C'est une reverdie qui célèbre le commencement du printemps, bien sûr, et aussi le commencement de l'amour. Et Purcell, en prenant ce texte, écrit une œuvre d'une certaine longueur pour soliste, chœur et orchestre, petit orchestre de cordes. Mais avant ce passage que je vous ferai écouter, entendre dans un instant, on a entendu que les solistes, parfois ensemble, et l'orchestre. Que les solistes et l'orchestre. Le problème, quand je vous fais écouter quelques secondes, une minute et demie ou quelque chose comme ça d'un morceau, c'est que quand on écoute tout le morceau, on arrive avec tout le reste, tout ce qui précède à l'oreille. Là, on a entendu que les solistes et l'orchestre, la musique avance très lentement, vers par vers, avec beaucoup de répétitions, bien sûr. Et l'extrait que vous allez entendre commence, non pas au début, mais avec les mots « The flowers appear upon the earth ».« The flowers appear upon the earth » au verset 12. Est-ce qu'on peut avoir le premier morceau, s'il vous plaît ? C'était une cassette enregistrée à partir de la radio il y a très longtemps. Le son n'était pas très bon. C'était joué d'ailleurs un peu lentement. Mais le moment magique, quand on a tout écouté jusque-là, c'est l'enthousiasme soudain de Purcell devant le chant des oiseaux. On écoute The winter is past, the rain is over and gone, the flowers appear upon the earth, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Puis tout d'un coup, and the time of the singing of birds is come. Il est évident que Purcell, en tant que musicien, réagit à ce moment-là. Et pour la première fois dans le morceau, on entend tout de suite après le chœur. Et c'est vraiment magique si on a tout le reste à l'oreille, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un chœur. On peut penser qu'il n'y a pas de chœur. On a entendu des solistes et un petit orchestre. Tout d'un coup, il y a le chœur. Pourquoi le chœur à ce moment? Peut-être parce que Purcell savait que Shakespeare avait déjà assimilé les voix d'enfants, parce que ce sont des enfants qui interviennent pour la première fois, jusque-là ce sont des hommes. Et il avait déjà assimilé les voix d'enfants à des oiseaux. Dans le sonnet 73, un moment célèbre, « Those boughs bear ruined choirs where late the sweet birds sang. » Ces rameaux, cœurs nus en ruine, où chantaient naguère les douze oiseaux. Et Shakespeare, dans le 73, réussit à parler en même temps du cœur d'une abbaye en ruine, d'un cœur de jeune soprane, et sous la ramée du ramage des oiseaux. Et ce qui est encore plus étonnant, moins magique, mais plus étonnant, c'est Alléluia. C'est entièrement irrégulier. Alléluia, loué Ya, loué Dieu, n'intervient dans la musique que dans un contexte religieux, évidemment, après une allusion à Dieu ou à Jésus, non pas après une allusion au chant des oiseaux. C'est tout à fait irrégulier. C'est peut-être illégal. Purcell, tout d'un coup, devant le chant des oiseaux, qui lui parle de sa propre musique, de son propre art, dit en somme « Alléluia ». Et il est clair qu'il assimile le chant des oiseaux à la musique, qu'il dit « Alléluia » à la musique et pour la musique, au moment, et surtout, je pense, pour la musique qui lui vient. Après tous les mots qu'il a choisis dans le Cantique des Cantiques, c'est « The time of the singing of birds is come ». Le temps du chant des oiseaux est venu. Et je vois le musicien qui s'enthousiasme devant le temps de la musique, le moment où la musique lui vient. Et à la fin du passage qu'il a mis en musique, je partais dans une autre idée. Le problème quand on fait des cours, surtout quand on les improvise à partir de quelques notes, c'est que d'autres idées vous traversent l'esprit. Alors de temps en temps, je vous les donne, mais de temps en temps, je me dis non, c'est pas pour maintenant, ce sera pour un autre moment. Donc je reviens à ce que je disais, si je peux me le rappeler. À la fin du passage qu'il met en musique, qui est un texte religieux, après tout, ou du moins selon l'interprétation chrétienne, et je crois juive, c'est un poème d'amour, bien sûr, ou de jeunes personnes dialogue, mais dans l'interprétation chrétienne, le bien-aimé est Jésus, et la bien-aimée est l'Église. Et à la fin de son passage, au moment où le texte dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui », Purcell écrit un « Alléluia ». C'est tout à fait régulier. Mais il choisit dans un livre religieux un passage sur la reverdie de l'année et sur le chant des oiseaux. Et dans une musique qui est en principe sacrée, il s'enthousiasme surtout au moment des oiseaux. Dans une musique sacrée, il se réjouit également du bonheur d'être ici. Le bonheur sacré et le bonheur d'être ici n'étant peut-être pas deux choses distinctes pour Purcell. Un deuxième exemple, Handel, un autre grand compositeur anglais, je dis ça avec un sourire, Handel, une œuvre qui s'appelle l'Allegro il penseroso ed il moderato, je le dis en français, parce que ce n'est pas du bon italien non plus, et ce n'est pas en anglais, donc comment le dire, une œuvre de 1740, l'année d'avant le Messie. Handel prend comme texte certains passages de l'Allegro et de Il Penseroso de Milton que son librettiste Charles Jennens, qui était le librettiste aussi du Messie, Charles Jennens, fait alterner. C'était une très bonne idée d'ailleurs. Jennens a eu l'idée de prendre des passages de l'Allegro et ensuite du Penseroso, ensuite de l'Allegro, etc., pour qu'on passe d'une ode à l'autre, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand on lit les odes de Milton. Il avait aussi, malheureusement, la très mauvaise idée d'ajouter un poème de son propre cru, qui évidemment n'est pas à la hauteur de Milton. Mais la musique de Handel pour le poème de Jennens est fort belle. Alors, j'ai déjà parlé au moins une fois de ces poèmes de Milton qui étudient la vie dans la perspective d'abord de l'allégresse, ensuite de ce qu'il appelle la mélancolie, d'abord de l'homme gai, ensuite de l'homme contemplatif. Handel, entre la période de ses opéras et celle de ses oratorios, se hisse, on dirait, sans aucun effort, au niveau de Milton. Il était peut-être déjà au niveau de Milton dans ses opéras. Et nous sommes en présence de la rencontre assez rare, me semble-t-il, du génie littéraire et du génie musical. Dans l'Allegro, qui est une reverdie, l'oiseau en question est l'alouette, et je vous lirai les quelques vers de l'Allegro qui reparaissent plus ou moins dans la musique de Handel. Il parle à Allégresse, à la déesse Allégresse, la déesse Mirth, et lui dit, Allégresse, permettez-moi to hear the lark begin his flight and singing startle the dull night from his watchtower in the skies till the dappled dawn doth rise, then to come in spite of sorrow and at my window bid good morrow through the sweet briar or the vine or the twisted eglantine. Allégresse, permettez-moi d'entendre l'alouette amorcer son vol et surprendre en chantant la sombre nuit sur sa tour de guet en haut dans le ciel jusqu'au lever de l'aube pommelée, puis de venir, en dépit de ma peine, saluer à ma fenêtre le matin parmi la vigne ou la rose parfumée, parmi les églantiers entrelacés. Parlons d'abord de Milton et de l'alouette. Lui aussi voit évidemment le chant de l'oiseau comme un commencement, et il parle même du commencement du chant. L'alouette begins his flight, commence son vol. Il voit aussi le chant de l'oiseau comme une victoire sur la nuit, qui dans les vers qui suivent sera dispersée. Il voit ce chant aussi comme l'espoir comme accompagnant le lever du jour. Et ce commencement, cet espoir, a lieu dans le monde réel. Il se présente, il viendra à sa fenêtre, in spite of sorrow, malgré la peine, la tristesse, qui continue. Et à sa fenêtre, il verra les vraies fleurs qui poussent autour. Encore une fois, le chant de l'alouette ne signifie rien, étant une série de bruits, mais en même temps comme une sorte de signe pour l'imagination, comme un message du non-humain à l'humain, il signifie beaucoup, entre autres choses, le bonheur d'être ici. Passons maintenant à Handel et l'alouette, et si vous voulez bien mettre le morceau 2. Ce n'est pas une imitation. Il est vrai qu'on a un peu l'impression d'entendre un chant d'alouette, mais ce n'est pas une imitation parce que je sens la joie de Handel à écrire cette musique, à écrire pour la musique des trilles qui ressemblent à celles de l'alouette, à écrire et à répéter les 6 notes descendantes pour les cordes basses qui donnent une forme musicale, harmonique au tout. J'espère que vous n'avez pas tout le morceau dans la tête, mais quand on écoute les trilles de l'alouette, il y a 6 notes qui descendent, qui imite, si l'on veut, le fait que l'alouette continue de chanter en descendant, c'est le moment le plus magique, en quelque sorte, de son chant, mais qui sont là aussi pour créer la forme musicale, harmonique, humaine du moment, une forme que l'alouette, elle-même, serait incapable de créer. Et on sent la joie de Handel à assimiler le possible du chant d'oiseau dans la musique et de l'assimiler tellement que finalement c'est la musique qui englobe le chant d'oiseau. Des vers de Milton, Handel ne prend que 4 vers. Les vers 41, 42, 45, 46. To hear the lark begin his flight and singing startle the dull night, then come then to come in spite of sorrow and at my window bid good morrow. Et voilà comment il les met en musique. Troisième morceau, s'il vous plaît.
To hear the lark begin his flight.
Good morning.
le chanteur, le garçon, dialogue avec l'alouette. Et le chant humain devient une sorte de chant d'oiseau fondé sur une joyeuse répétition de sons. C'est comme si Handel acceptait d'apprendre quelque chose pour une musique extrêmement sérieuse, une musique où il s'investit absolument. Il accepte d'apprendre quelque chose chez chez l'alouette en faisant ce dialogue entre le chant humain et le chant d'un oiseau, fondé sur la répétition des sons, mais où finalement c'est évidemment la voix humaine que l'on écoute. Et il passe assez rapidement sur l'expression, sur les mots « in spite of sorrow », malgré ma peine, en dépit de ma peine, et se donne à cœur joie au mot « good morrow », littéralement « bonjour », mais qui représente surtout un salut au matin. Et la joie de Handel dans la musique déborde à ce moment-là, déborde dans « good morrow, good morrow, good morrow », qui ne cesse de se répéter. Et le chant d'oiseau du jeune garçon, les trois notes qui reviennent, est aussi un signe pour moi de la joie de Handel, de la joie de la musique. Handel écoute le chant d'oiseau qu'il écrit et exprime sa joie dans le salut du matin. Dans Il Penseroso, l'oiseau en question est un rossignol, naturellement, et voici le passage que vous allez entendre en partie. Less Philomel will deign a song in her sweetest, saddest plight, smoothing the rugged brow of night, while Cynthia checks her dragon yoke gently o'er the accustomed oak. Sweet bird that shunst the noise of folly, most musical, most melancholy, thee chauntress oft the woods among, I woo to hear thy evensong. À moins que Philomèle ne daigne chanter son air le plus doux, le plus triste, pour dérider le rude front de la nuit, cependant que Luna freine ses dragons doucement au-dessus du chêne familier. Doux oiseaux qui fuient le bruit de la folie, le plus musicien, le plus mélancolique, toi, si souvent la chanteuse des bois, je cherche à écouter ton chant vespéral. Si l'alouette de Milton est la voix de l'ici dans la perspective du commencement et de l'avenir, son rossignol est la voix de l'ici qui dure, qui s'approfondit. Vous savez que « nightingale » en anglais signifie « chant de la nuit ». C'est un peu comme le rossignol du paradis perdu, qui est caché la nuit sous le plus épais couvert. Et c'est un peu le chant qui vient du cœur obscur du réel et qui encourage, pour Milton, la contemplation, la pensée. L'ici du rossignol est évidemment plus complexe que celui de l'alouette. The accustomed oak, le chêne familier, correspond aux roses, à la vigne, associée à l'alouette, mais la nature connue est accompagnée par la fable, Cynthia, Luna, Artemis, etc., et son attelage de dragons. Et je note que oak, chêne, rime avec yoke, attelage. Milton fait rimer le naturel et le surnaturel, fait rimer littéralement auk, yauk. C'est l'ici du réel et de l'imaginaire, le réel que nous habitons, en effet, puisque nous habitons tous ce que nous appelons le réel et un imaginaire qui nous accompagne. Autrement dit, l'alouette, c'est le bonheur immédiat, l'allégresse, le rossignol, la joie profonde. Et le chant du rossignol entre plus profond aussi dans notre malheur, pour dérider ou lisser le front rude de la nuit. Le rossignol en étant humanisé, en représentant Philomèle violée et mutilée, parle de notre misère. Et sa musique va très loin dans la souffrance des hommes afin de la racheter par un chant, une voix inviolable. Je parle là pour Milton, c'est l'idée de Milton quand il parle du rossignol qui est aussi Philomèle. Et je note aussi, curieusement, que pour Milton, l'alouette est masculine, le rossignol est féminin. Voilà. Alors maintenant, Handel et le rossignol. Les vers que j'ai cités, Handel omet les vers 59-60 sur la lune, les dragons et le chêne familier. Alors voici d'abord le rossignol, le morceau 4, s'il vous plaît. Évidemment, la flûte baroque imite le rossignol, mais la vraie joie de l'auditeur, ce n'est pas de se dire « Tiens, Handel imite très bien le chant du rossignol ». La vraie joie, ce sont les moments où ce chant d'oiseau imité s'intègre à la musique, où les phrases ne sont plus celles de l'oiseau, mais celle de la musique baroque, la musique de l'époque et celle de la structure musicale. Et évidemment, si vous ne connaissez pas très bien la musique, il faudrait que vous l'écoutiez ou la réécoutiez. Mais on sent, encore une fois, un enthousiasme musical de la part de Handel au moment où les phrases de la flûte changent de rythme, semble s'accélérer et entre dans une structure qui n'est pas du tout celle de du chant d'un rossignol, mais qui est celle de la musique baroque. Et on sent ce joie d'abord dans le jeu de la flûte. La flûte semble imiter le rossignol, et puis tout d'un coup, c'est des phrases tout à fait handelienne, et une deuxième fois dans la jubilation de l'orchestre, après la viole de gambe, je suppose, qui accompagne le chant, un peu comme la forêt accompagne le rossignol, c'est tout l'orchestre qui entre en jeu, avec une jubilation évidente. Et voici le dialogue, ou plutôt le début du dialogue. Vous savez, je souffre énormément en ce moment du fait que je ne peux pas vous faire entendre les meilleurs morceaux de cette musique qui est tout à fait sublime. Mais voici le début du dialogue entre la voix du rossignol et la voix d'une soprane qui reprend seulement les vers 61 à 64. « Sweet bird that chants the noise of folly, most musical, most melancholy, thee chauntress oft the woods among, I woo to hear thy even song. » Le morceau 5, s'il vous plaît. Dans ce passage, une sorte d'osmose entre les deux voix. Dans l'autre passage, l'alouette accède à notre musique et le rossignol accède à notre musique. Ici, c'est la voix humaine qui accède au chant des oiseaux. Et c'est le passage le plus long de l'œuvre. Il est sublime, j'aimerais bien simplement vous faire passer le tout. Le passage le plus long de l'œuvre, à l'exception du dernier passage avec le chœur final, et le passage est répété da capo. Il est évident que Handel s'enthousiasme de ce contact avec le chant d'un oiseau. Autrement dit, dans une musique qui a pour texte une ode pastorale, Il Penseroso de Milton, Handel rapproche sa musique de la nature. C'est comme si la musique exprimait la nature, ou, pour employer l'adjectif de l'époque, l'améliorait, au lieu de s'en éloigner afin de créer le monde de l'art. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement un moment naïf où un compositeur se met à imiter le chant d'un rossignol. C'est une musique où la musique s'ouvre au son du réel, au lieu de s'éloigner du réel dans le monde de l'art. Et finalement, puisqu'il a été question de non-sens, le non-sens du chant d'oiseau, je vous ferai écouter un moment tiré d'un madrigal anglais, parce que le madrigal anglais inclut très souvent des syllabes qui n'ont pas de sens. C'est un langage de son. L'exemple le plus réussi, vous le connaissez bien, c'est « It was a lover and his lass ». C'est un amoureux et sa belle qui arrive dans le dernier acte de « Comme il vous plaira », probablement, à l'époque même de Shakespeare, avec la musique très connue maintenant, de Thomas Morley. Et « It was a lover and his lass », c'est une sorte de reverdi, « In springtime », au printemps, « When birds do sing », quand chantent les oiseaux. Mais c'est un poème de Shakespeare qui contient continuellement du nonsense, « With a hey and a ho and a hey nonny no », traduisez ça en français, « Hey ding a ding », « Hey ding a ding a ding », etc. Il y a quatre strophes qui exprime la jubilation du non-sens. Morley était peut-être le maître du madrigal anglais, que je méprisais autrefois en jeune intellectuel à cause du non-sens. Les madrigaux me semblaient une forme tout à fait médiocre, à cause du non-sens. Moi, je voulais, n'est-ce pas, du sens, à cause de tous les tralala, tralaléri, etc. Et jusqu'à ce que je me sois rendu compte que ces cris de joie sont précisément des cris de joie qui expriment la joie de la musique. Alors, vous allez entendre le début de « Sing we and chant it », littéralement « Chantons-le et chantons-le ». En anglais, « sing » vient du fond germanique et « chant » du franco-latin, et on a encore une fois l'exemple de l'immense synonymie que la langue anglaise nous fournit. « Sing we and chant it » du « First Book of Ballads » pour cinq voix de 1595, le dernier morceau, s'il vous plaît.
Sing we and chant it while the chant it, la 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 la. Sing we and chant it while the chant it, la 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 la. Not long you lasted and old age hasted, now is best leisure to take our pleasure.
Écouter cette musique, je me rends compte de façon tout à fait forte de l'importance de la répétition. J'en suis convaincu depuis très longtemps. Mais dans ce morceau, on a le bonheur du chant, le bonheur de l'amour, le bonheur de la jeunesse, le bonheur de la musique en général, le bonheur d'être ici. Et ce bonheur est porté précisément par la répétition. Et les musiciens savent cela mieux, me semble-t-il, que les poètes, parce qu'on peut répéter en musique d'une manière qui serait simplement ennuyeuse en poésie. Un poète est obligé, quand il veut répéter, de trouver autre chose. Il peut évidemment répéter des refrains, mais en général, il faut qu'il répète des sons, qu'il répète des morceaux de syntaxe, etc. Alors que là, on est simplement dans la répétition de la joie. Et je fus finalement convaincu du bien fondé du non-sens, d'un langage qui épouse la musique sans lui ajouter une signification. Quand, étudiant à Cambridge, j'assistais au concert annuel des madrigaux, donné en plein air au mois de mai-juin, les chanteurs sont sur des barques plates, des punts, liés ensemble pour faire un grand radeau, et les auditeurs s'assoient sur la rive de la cam ou dans d'autres punts. Et puis, peu à peu, le soleil se couche sur l'eau et la verdure. Et à un moment, à la fin du concert, le radeau avec ses chanteurs, qui continuent de chanter, s'éloigne sur la cam dans l'obscurité montante. Et le lieu est transformé par la musique à la douce venue de la mort. Nous n'avons pas besoin de sens, nous avons simplement besoin de son. Et curieusement, ce fut dans le lieu même où, une vingtaine d'années plus tôt, Claudel avait parlé du bonheur d'être ici. On n'a pas besoin de sens, dans certaines circonstances, on n'a pas besoin de sens, de signification. La musique dans un lieu devient ainsi la musique du lieu, où le lieu devient musique. La semaine prochaine, je ferai ma leçon de clôture, mon tout dernier cours au collège, et je parlerai du Pont des Arts. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.